Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Salut Laura.
Salut.
Tu vas bien aujourd'hui ?
Tout va bien, tout va bien. Je sors d'un rendez-vous et puis j'étais dans les bouchons, mais tout va bien.
Tout va bien. Ouais, Paris est bloqué. Demain, on est à nouveau confiné. Et le timing est presque parfait finalement pour se voir. Donc ça me fait super plaisir.
Bah juste avant d'être confiné, écoute, c'est le dernier moment que j'ai en tout cas officiel à la fédération, mais je ferai quand même des sauts par-ci par-là.
Ok. Ouais. Bah je crois que tu peux pas t'empêcher et que t'es hyper active et qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels tu travailles en ce moment et j'aimerais vraiment beaucoup qu'on en parle de comprendre ton action en ce moment. Et peut-être juste avant de commencer. Je suis hyper content d'être là et c'est hier soir en préparant cette interview, tu vois, pendant 2-3 heures, je regardais ton parcours et je me suis dit, waouh, j'ai beaucoup de chance de te rencontrer parce que j'ai l'impression que tout ce que tu fais, tu le réussis et que tu arrives à exceller sur des domaines qui sont hyper différents et ce qui est une qualité assez rare chez les êtres humains d'exceller sur plusieurs domaines, que ça soit le sport mais aussi après derrière peut-être un rôle plus bureaucratique, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ou en tout cas plus représentationnel, et je me suis dit waouh, en fait dans l'écosystème du foot, t'es un peu la Oprah Winfrey, la Michelle Obama, la Emma Watson, tu vois, de ou même la Rihanna, tu vois, dans à nous, et je me suis dit mais en fait ouais, je te connaissais pas assez, et je me suis dit mais j'ai une chance de fou. Donc déjà merci infiniment d'avoir répondu positivement à Nadège qui t'a contacté, qui travaille avec moi. Donc je suis vraiment trop content. Avant d'arriver, je stressais vraiment. Franchement, j'ai transpiré, j'étais pas bien.
Ah bon?
Ouais, j'étais en retard et tout dans les bouchons, comme tu l'as dit, et je voulais vraiment arriver à l'heure. Donc, je vais essayer de me détendre. Je crois que je suis beaucoup plus stressé que toi. C'est de la façade, le sourire et tout ça.
Ah d'accord.
C'est pour me détendre. Non, mais moi, je crois. Je sais pas si toi tu crois, mais je crois beaucoup qu'on peut se libérer par la gestuelle, tu vois, en essayant d'avoir l'air décontracté, qu'on l'est vraiment, tu vois. On peut le devenir, en tout cas.
Donc. D'accord. En tout cas, j'ai d'autres techniques pour déstresser, mais, j'aurais pensé que t'étais vraiment détendu, hein, lorsque je t'ai vu. Donc, écoute, soit à l'aise, t'es ici au sein de la fédération. C'est, soit le bienvenu chez nous.
Bon, bah, merci. Merci, en tout cas, pour cet accueil. Et si tu as des techniques pour se déstresser, on en reparlera juste après.
On en reparlera, oui, bien sûr.
je suis très preneur. Et puis moi, tu sais, c'est la 90e bientôt, donc
ça devrait aller normalement.
Ça devrait aller, ouais. Je suis une bêtise. Mais comme je te le disais sur le podcast, il y a une tradition, c'est toujours de commencer par la même question et de commencer un petit peu par l'enfance et de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Alors mon premier souvenir de sport. C'est moi jouant avec mes voisins dans le parc du château de Versailles. C'est là où j'ai grandi. Ça a été un privilège. En fait, je sors de chez mes parents et j'ai une étendue d'arbres et d'herbes. Enfin, je suis dans le parc du château de Versailles, au Petit Trianon. Okay. Et en fait, après tous les cours du collège ou les cours de primaire, je sors jouer avec mes voisins qui sont joueurs de foot dans le club d'à côté, et je joue également avec mes frères.
Ok, c'est que des garçons ?
Que des garçons.
C'est vrai ? Ok.
Que des garçons. Donc j'ai grandi dans un environnement où j'étais entouré de garçons. Ouais.
Ouais. Et avec le recul, c'est quelque chose qui t'a enrichi ou endurci ou peut-être même, qui t'a influencé ?
Ça m'a pas spécialement endurci parce que les garçons qui étaient autour de moi étaient bienveillants, ouais. M'ont toujours encouragé. Bon, il y a eu quand même une ou deux fois où j'ai eu quelques remarques sexistes, mais en général, ils étaient très très bienveillants, toujours à m'encourager, toujours à me dire hey, Laura, tu viens jouer avec nous. Donc j'ai pas eu de soucis, souci de m'endurcir en tout cas avec mes voisins.
Ok. Donc c'est des très beaux souvenirs, quoi.
Ouais, des beaux souvenirs.
T'as mentionné le sexisme. Est-ce que tu penses qu'on peut parler de sexisme quand il s'agit d'enfants, tu vois ? Est-ce que c'est pas... Moi, je me pose beaucoup la question, tu vois. Est-ce que on peut accuser un enfant d'être sexiste ou pas ? Même un pré-ado ou un ado, est-ce que c'est peut-être juste du mimétisme ou de la maladresse ? Je sais pas. Mais
je pense
que toi, tu vois beaucoup d'enfants et...
Je dirais que les enfants, en fait, ils reproduisent un peu ce qu'ils voient autour d'eux, comme par exemple, ou ce qu'ils entendent autour d'eux. Quand on voit, moi, je vois ma nièce, je la vois évoluer, et de temps en temps, je vois qu'elle a des attitudes où elle va rouler les yeux en l'air en se disant, ou elle va ramener des nouveaux mots. Mais c'est pas ce qu'elle apprend à la maison. Donc c'est ce qu'elle apprend de l'extérieur. Et donc je me dis que certains enfants, je pense qu'ils ont des réflexions juste parce que peut-être un copain eux leur a dit « Oh, encore une fille qui vient jouer ». Ils comprennent pas tout ce qu'il y a derrière, mais c'est parce que souvent ils voient ce qui se passe autour il y a un peu la pression du groupe où ils doivent dire « Bon ben, pour être dans le moule, ben on fait comme les autres ». Et donc on fait les mêmes remarques. Mais après c'est vrai que... Voilà, même si on est bien éduqué à la maison, parfois on récupère ce qu'on apprend dans la cour d'école.
Ouais.
Hein.
Ouais, c'est ça.
Mais je pense pas qu'on puisse dire qu'un enfant est sexiste, mais puisse avoir en tout cas adopté certains comportements sexistes. Oui.
Ouais. Mais c'est marrant que tu parles du fait de ramener des mots à la maison, parce que mes parents m'ont inscrit au foot Et après la première, après le premier entraînement, je suis revenu avec des gros mots. Je devais avoir 6 ou 7 ans, et c'est la première fois que je disais des gros mots à la maison. Manque de bol, c'était juste après cette première séance de foot, et mon père m'a dit plus jamais. Et du coup, j'ai pas pu, enfin j'ai pas fait de foot. Et d'ailleurs, enfin c'est marrant maintenant, c'est pas un sport que, enfin je vibre comme tout le monde, tu vois. Mais je me tiens volontairement loin du foot parce que des fois, je vois des émotions négatives, tu vois, à travers le football. Et du coup, c'est marrant que tu parles de ça, de ramener à la maison, parce que je l'ai vécu moi-même. Donc, toi, tes parents sont jamais pleins de gros mots à la maison?
Non. Ils ont toujours fait en sorte que déjà on soit bien éduqués, bien respectueux. Et ouais. Non, on n'était pas influencés par l'extérieur. C'est vraiment et ça m'a suivi durant toute ma carrière. On en reparlera sûrement. Pour m'intégrer dans un groupe, non, j'essayais pas de ressembler aux autres. En termes de gros mots, non, j'ai pas ramené de gros mots de l'extérieur. Je pense que sinon j'aurais été tapée aussi. Ah ouais. Et aussi l'éducation en interne. Quand je dis tapée, c'est-à-dire j'aurais été remise à ma place. Et puis j'ai eu la chance aussi d'avoir des frères qui étaient très respectueux. Donc du coup, j'étais dans la même lignée qu'eux, très calme, très posée.
Ok. Et tu dirais que t'as eu quel type d'éducation avec le recul maintenant d'une femme épanouie et qui a une grande carrière, tu la définirais comment ton éducation?
Mon éducation, en fait, elle est beaucoup dans le respect dans la politesse, dans la bienveillance. Alors je dis ça parce que en fait, mes parents. Et ça aussi, ça, je dirais que ça a été positif dans le sens où, ben, quand on a des enfants polis et quand on est poli, les gens prennent le temps de nous écouter, nous respectent. Mais il y a aussi, ben, quand j'ai connu le haut niveau, être très poli, être très discret, parce que j'étais aussi discrète de par mon éducation, et ben ça a été aussi compliqué de s'imposer dans le milieu du haut niveau. Okay. Parce que parfois il faut être entre guillemets égoïste, parfois il faut taper du poing. Or, ce que j'ai appris de mes parents, en fait, c'est si quelqu'un nous fait du tort ou autre, il faut parfois juste reculer et laisser faire. Ouais. Or, on apprend dur, qu'à un moment il faut rentrer dedans et faire savoir aux gens que non, c'est inadmissible. Ouais. Donc, ce respect, il a été très positif, hein, du respect, c'est important, la bienveillance, beaucoup de bienveillance, savoir pardonner, mais cet aspect d'être discret et respectueux, quand on fait du haut niveau, ça peut être compliqué, parce qu'il faut, quand on est dans du haut niveau, il faut savoir s'imposer, parfois il faut être dur, parfois il faut être méchant. Ok. Malheureusement.
Toi, méchante, j'arrive pas à le croire.
Mais... sur le terrain mais pas méchante pour casser, hein. J'étais dure.
mais je vois ce que tu veux dire, mais c'est, enfin, ça résonne beaucoup en moi ce que tu dis, parce que tu vois, c'est des vraiment les valeurs que j'ai envie de transmettre à mes fils, tu vois, et en même temps c'est dur, tu vois, de vouloir leur donner de l'ambition et de vivre leurs rêves, et en même temps de toujours leur apprendre à essayer de rester humble et discret et de rester à leur place, tu vois. Donc ça m'inspire beaucoup ce que tu dis, et je, enfin ça, en tout cas ça résonne, quoi. Et le football, c'était une culture de famille ou c'est vraiment venu de la cour de récréation?
Le football, c'est en fait mon père qui joue en entreprise. Ouais. Il fait du football entreprise, et donc le week-end je vais le voir. Je vais le voir parce que c'est sympa d'avoir une petite activité, d'aller voir son papa jouer, l'encourager, et puis de m'échauffer avec lui. En fait, je lui passe la balle. Et puis oui, le football aussi, c'est avec mes collègues de mes voisins. Donc du coup, après les cours, comme je disais, on allait jouer. Et puis un jour, on m'a une fille du Paris Saint-Germain qui était dans le même collège que moi m'a vu jouer et me dit « Ah, ce serait bien que tu rejoignes la section du Paris Saint-Germain ». Voilà, okay. C'est comme ça que j'ai décidé à 12 ans d'intégrer de faire du football en club. Ouais. Mais sans ambition d'être professionnel, sans ambition je ne connaissais même pas l'équipe de France, en fait, à 12 ans. Ouais. C'était juste pour avoir une activité à côté de l'école.
Ok. Et est-ce que, je pense qu'on connaît tous un petit peu les circuits classiques pour les garçons, avec le centre d'entraînement, comment ça s'appelle?
Clairefontaine. Le centre de préformation,
Formation, exactement, tu vois. Maintenant, il y a une voie royale, un parcours et tout, mais est-ce que à l'époque ou même maintenant, il y a un peu un parcours qui est tout tracé pour les femmes, j'ai pas l'impression encore, mais ça se construit à l'heure actuelle.
Oui, ça se construit bien. Il faut savoir que la fédération a 8 pôles espoirs.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on forme les meilleurs jeunes de différentes régions. En France, en fait, on a sectorisé la France pour qu'on puisse accueillir les meilleures joueuses dans nos pôles. Et donc, c'est pour elles, c'est une manière de s'entraîner toute la semaine, d'inculquer les bases du football, la technique, la tactique, développer le mental également, ouais, pour former nos futures joueuses des équipes nationales.
Ok. Et t'as senti je fais un rebond avec une autre conversation que j'avais eue avec Léanie Corson, qui fait du rugby, qui est une joueuse de l'équipe de France, et elle m'a dit qu'elle avait quand la Coupe du monde de rugby avait eu lieu en France, elle avait senti vraiment un énorme essor, tu vois, à la fois dans les stades, mais même au niveau de la fédération, beaucoup de choses. Est-ce que toi, du coup, t'as vu un moment, un espèce de palier qui a été franchi, et tu vois aujourd'hui, moi j'ai le souvenir en 2019, tu vois, de la Coupe du monde où tous les stades étaient pleins, où il y avait un vrai engouement, tu vois, dans les bars à Paris, je pense que devant les quarts de finale, c'était bondé et les terrasses étaient remplies. Est-ce que toi t'as vu un moment où il y a eu vraiment se structurer, ou vraiment un élan hyper positif?
Moi, l'élan, en fait, j'ai connu vraiment l'amateurisme du football.
Bah ouais, c'est pour ça que je te demande
qu'on
ça.
On est à un moment où j'ai à peu près 15-16 ans, je joue en division 1 féminine.
Ouais.
Et en fait, je joue dans des stades où en fait les gens assistent au match, sont sur les rambardes en fait, et les gens peuvent nous toucher quand on fait une touche. Donc ouais, on était dans ce genre de stade, donc c'est des stades de niveau régional. Même avec l'équipe de France, hein, on jouait dans des stades de national, mais des stades même de région, donc les gens pouvaient nous toucher en équipe nationale. Et puis j'ai connu, avec l'Olympique Lyonnais, on gagne la Ligue des Champions en 2010. Et on enchaîne avec l'équipe de France la Coupe du Monde 2011, on atteint les demi-finales,
ouais,
et on joue, bon, la paire, mais on joue la 3e, 4e place. On termine 4e. Mais à l'issue de ce match, là, j'ai senti un boom. C'est-à-dire que quand on revient en France, les gens nous connaissent. On sort quand même de l'histoire de 2010 avec les garçons. Donc les gens aussi sont sûrement à la recherche d'autres valeurs. Ouais. Et l'équipe de France fait un bon résultat à la Coupe du Monde. Personne ne nous attendait jouer les demi-finales face aux États-Unis. Même 4e, les gens sont fiers de nous, ont vu des valeurs où ils se retrouvaient.
Ouais.
Et en fait, à partir de 2011, le premier match qu'on rejoue sur le sol français, c'est à Lens.
Ouais,
et quand tu as le stade rempli, et là on joue dans des stades, et les stades commencent à être remplis pour l'équipe de France.
Ouais.
On entend le chant des corons, c'est juste magnifique. Et en 2011, je sens vraiment les choses tourner. On joue dans des stades de division 1, division 2 masculine, ouais, Ligue 1, Ligue 2, avec du public, les stades sont remplis. Là, je sens cette différence. On organise cette Coupe du Monde en 2019, là on donne une dimension mondiale au, ouais, football. En France, montrer qu'on est capable d'organiser la Coupe du Monde. On l'a pas gagné cette Coupe du Monde, malheureusement. Mais en termes d'organisation, on a montré qu'au niveau mondial, on est capable d'organiser quelque chose de costaud. La FIFA a mis des moyens, je n'ai jamais vu. Ils ont fait venir des stars, ouais, d'un peu partout. Des joueurs, hein, comme des Eto, comme des Tim Cahill, des joueurs reconnus qui viennent soutenir les foot féminins, soutenir les filles, tout simplement. Et puis, tout autour de cette Coupe du Monde, il y a toute une promotion. Moi, j'ai arrêté ma carrière, donc du coup, je suis du côté management. Je suis du côté où, en fait, je vais sur les territoires avec Brigitte Henriquez, qui porte ce dossier, qui est notre vice-présidente à la fédération. Je suis accompagnée de Erwan Leprévost, qui est notre directeur de compétition. Et on sillonne la France et également l'étranger pour promouvoir cette Coupe du Monde. Mmh. Cette Coupe du Monde, on veut pas juste qu'elle fasse la promotion des 9 villes hôtes.
Mmh.
On veut que cette Coupe du Monde, elle soit vécue sur l'ensemble de nos territoires. Métropole, mais également les dom-toms. Donc du coup, je voyage même en Guadeloupe, chez moi, et puis on fait cette promotion partout pour que tout le monde puisse vivre cette Coupe du Monde. On demande à nos villes d'organiser des événements, d'organiser des mini-coupes du monde, de faire de la promotion du foot féminin. Et puis en fait, on se rend compte que le football féminin, il est, dans certains endroits, il n'est pas forcément bienvenu ou vraiment bien développé.
Ouais.
Les quartiers, il y a dans certains quartiers, les filles ne peuvent pas jouer. Donc, on demande aux villes de ramener les problématiques pour développer ce football féminin. Par exemple, en Bretagne, c'était développer le football féminin dans les quartiers. de mener des actions qui feront en sorte que, eh ben, grâce au foot féminin, on va aider votre ville, on va aider votre agglomération à se développer. Ça a été une fête extraordinaire. Et puis, durant les un mois de compétition, j'ai rencontré l'ensemble de nos bénévoles sur la compétition. J'ai visité l'ensemble des stades. C'était un de mes rôles durant la Coupe du Monde. Et ça a été génial. J'ai rencontré des papas, des mamans, des grands-mères, des familles, des couples qui ont pris du temps sur leurs vacances. Et c'était exceptionnel. Exceptionnel.
Mais c'est dingue, j'ai l'impression que tu prends presque encore plus de plaisir tu vois dans ce nouveau rôle que avant sur les terrains. Je vais pas te demander de comparer mais mais je te vois là avec tu vois je vois tes étoiles dans les yeux, tu parles avec les mains, tu m'expliques tout et c'est passionnant en tout cas qu'est-ce qui reste à faire du coup pour le football féminin? Parce que à t'entendre c'est gagné quoi, mais il reste temps, j'imagine.
En fait, non, c'est pas du tout gagné. C'est pas du tout gagné. Et je le dis, et je le dirai encore à nos joueuses, qui aujourd'hui ont des contrats. Ouais. Une joueuse de Ligue 1, on les voit, elles ont des contrats, elles ont des salaires de bons salaires, hein. Mais pour les jeunes qui m'écoutent, faut pas s'imaginer que les filles gagnent autant que les garçons, on le sait. Et même, quand bien même celles qui gagnent bien leur vie, voilà, on sait que c'est pas pour toute leur vie, elles sont obligées quand même de travailler à côté ou d'avoir fait des études. Le Covid, en fait, nous permet simplement de faire le constat qu'il y a encore du travail.
Ouais.
Il y a encore du travail, que ce soit en termes de structuration. C'est là les dernières informations qui ont circulé, c'est que voilà, on a essayé de remettre la division 2 en championnat avec le national 2 chez les garçons. Ça avait été validé par le gouvernement, mais malheureusement, avec l'évolution de l'épidémie, on a dû revenir en arrière, annoncer que c'était annulé. Et en fait, ce qui fait qu'on peut jouer ou pas jouer actuellement, c'est de savoir combien de joueurs de ces championnats ont des contrats fédéraux. Et notre division 2 n'a pas assez de contrats fédéraux. C'est encore amateur, c'est très amateur. Donc en termes de structuration du football de notre élite, il faut qu'on fasse beaucoup mieux, il faut qu'on accompagne beaucoup mieux nos clubs pour éviter que la division 1 féminine ait trop d'écart avec la division 2.
Ouais.
Le football de base, il faut continuer à le pousser avec nos présidents de ligue, nos districts. C'est un peu plus technique, mais c'est vrai qu'il faut rappeler aux gens en fait qu'il faut pas abandonner les jeunes filles.
Ouais.
Voilà, il faut toujours les accompagner, qui continuent à faire des projets, à mener des actions. En plus, avec le Covid, on se rend compte que il faut faire en sorte que nos jeunes, elles puissent jouer. Ouais. Et puis aussi penser au fait que même si on ne forme pas des hommes et des femmes professionnels, mais on forme des hommes et des femmes qui apporteront à notre société. Donc, que le football, il est clé et qu'il est important. Donc, on est actuellement, on se dit qu'on peut pas relâcher, même si on a atteint les plus de 200 000 licenciées féminines. Mais c'est comment faire aujourd'hui pour qu'elles soient dans des meilleures conditions. Voilà, on continue à bosser sur ça. C'est les prochains objectifs du mandat.
Attends, du coup, il y a 200 000 licenciées féminines et juste pour avoir un ordre de comparaison, il y a combien d'hommes inscrits?
On est 2 millions de licenciés et 200 000 féminines.
D'accord, ah ouais, donc il y a quand même un ratio x10, quoi.
C'est ça.
Ok, ouais, donc il y a... En fait, il y a tout à faire. Il y a encore tout à faire.
Oui, il y a tout à faire, mais le but, c'est pas de rattraper les garçons. Mmh. On est déjà un bon nombre de joueuses, c'est bien. Je pense que aujourd'hui, le but, c'est surtout qu'elles soient dans les meilleures conditions.
Ouais.
Et professionnaliser, ou en tout cas, mieux structurer l'élite, et puis toujours à continuer à travailler pour notre base.
Ok. Et du coup, je fais un petit peu un flashback en arrière sur toi. Tu me disais que tu vois à 15-16 ans tu commençais à jouer et qu'il y avait quasiment aucune structure, on va dire, enfin très peu de structure professionnelle encore. Je pense que toi t'avais peut-être un rêve de jouer, et comment tu vois l'adolescente que tu étais, en fait elle imaginait un petit peu sa carrière? Est-ce que tu pouvais faire un plan de carrière à cette époque-là? Est-ce que je sais pas, il y a des gens qui t'ont tendu la main? Comment ça s'articule et comment ça s'est passé un petit peu ton évolution, on va dire, de la jeune Laura qui commence le foot au collège, justement à celle qui va devenir professionnelle et qui va signer son premier contrat? Qu'est-ce qui se passe entre les deux?
Moi je débute à 12 ans au Paris Saint-Germain, aucune ambition de club professionnel ou quoi que ce soit, je ne les connais pas. Le Paris Saint-Germain, j'ai choisi parce que c'était club qui avait une section féminine et qui était à 15 minutes de la maison. Donc l'idéal pour moi, il y a une équipe féminine, j'y vais. Et puis très vite, on voit que j'ai du talent. Enfin, talent, je suis une joueuse athlétique, je cours plutôt plutôt vite. À un entraînement, on me propose de passer à deux entraînements en allant m'entraîner avec les garçons. Donc je joue, pour ceux qui connaissent, les Titi du Paris Saint-Germain, donc c'était les Samuel Piet. Donc je m'entraîne avec les garçons. Je t'avoue, j'étais très intimidée, mais je sais que ça allait me faire du bien d'aller m'entraîner avec les garçons. Donc je m'entraîne avec eux. Et puis même pendant l'été, j'étais la seule.
Ok.
À qui on avait proposé. Après, j'ai eu deux coéquipières qui m'avaient rejoint, mais après, elles avaient abandonné. Elles aimaient pas trop l'ambiance. Moi, j'étais pas là pour faire, pour être amie ou autre, mais ça s'est bien passé parce que sur le terrain, en fait, j'étais là pour jouer. Pas pour pleurnicher ou quoi que ce soit. J'étais moi, voilà, et ils m'ont bien accueilli. J'ai été très bien accueillie. Pas de remarques désobligeantes. Vraiment bien accueillie. Avec un coach avec qui je suis toujours en contact, qui a fait en sorte que ça se passe bien. Donc du coup, j'ai aucune ambition de jouer professionnellement, mais petit à petit, en fait, je suis sélectionnée pour le département des Yvelines. Ensuite, pour la Lille-de-France, je suis même surclassée. Je suis pas la plus technique, mais je suis quelqu'un qui est dur au mal. Donc ça se passe bien. Je fais de la Coupe nationale. Donc la Coupe nationale, c'est un peu la sélection des régions. Je représente l'Île-de-France. Je suis pas titulaire, mais je suis la plus jeune de l'effectif. Et puis mon premier match, je termine le match. Donc je rentre en jeu. Ça se passe bien, je suis latérale gauche. La sélectionneur de l'équipe de France, en fait, m'a repérée. La sélectionneur de l'équipe senior était là pour observer les jeunes. Et à la fin, je l'apprends plus tard, hein, qu'en fait, le soir, elle réunit l'ensemble des entraîneurs des régions.
Ouais.
Elle a dit... Donc, ils font le point, et puis ils font le point des joueuses qui ont été remarquées. Et elle dit, je suis étonnée, vous m'avez pas parlé d'une joueuse. Et les gens disent, on vous a déjà cité les noms. Et elle dit, il y a 7 joueuses de l'île de France, la petite latérale. J'ai bien aimé son jeu, j'aimerais la revoir. Donc du coup, je suis titulaire au prochain match. Moi, je suis pas au courant de tout ce qui s'est passé, ce qui s'est dit. Je l'apprends plus tard. Hein. Donc du coup, je joue titulaire, ça se passe bien. Et puis après, je suis invitée à faire le tournoi des centres, qui est un peu la sélection des meilleures joueuses de région. Et puis après, on me propose d'intégrer Clairefontaine.
Tu réalises à ce moment-là un peu tout ce que ça implique.
Non, parce que
en tu plus, dis toujours pas, je peux faire une carrière.
Non, en fait, la même année. Je fais mon stage à Clairefontaine avec Paris et je vois, il y avait Monsieur Dominec qui entraînait les Espoirs. Je vois la première promotion de foot de joueuse à Clairefontaine. Ça faisait un an que ça existait et on les rencontre. Nous sommes joueuses de la région parisienne et on rencontre les filles qui ressemblent, l'élite française, les meilleures joueuses de clubs français. Et je les vois, je dis waouh, mais ça c'est même pas pour moi ça. C'est même pas pour moi. Mais un an plus tard, je l'intègre.
Ouais.
J'avais pas forcément réussi mes tests parce qu'il y avait des tests, on était observés. J'avais le meilleur test athlétique. Donc j'étais à 14 ans, 16 ans, 15 ans, j'avais un test de VMA de 6 km/h. J'avais battu tout le monde en fait. Et en fait, j'intègre le centre. Et quand je suis au centre, en fait, quand je passe devant le château des Bleus, je parle à une de mes collègues et je lui dis waouh. Là, ça a été mes premiers objectifs. Je me dis, ouais, peut-être que je peux faire quelque chose dans le football. Et je dis, un jour, j'aimerais être dans le château. Donc, ça voulait dire que si j'intègre le château, ça veut dire que j'étais en équipe de France. Sachant qu'à l'époque, aucune équipe féminine n'allait dans le château. Voilà.
T'aimes bien les châteaux, du coup, entre Versailles et celui de Clairefontaine. Il y a peut-être une petite histoire.
Il y a eu des articles qui sont parus en disant la vie royale. Ouais, je sais pas encore.
Bah écoute, ça serait tout le mal que je te souhaite, mais ouais, c'est génial. Et vous en parlez entre filles de ça, de est-ce que c'est possible d'en faire une carrière, est-ce que vous parlez aux plus grandes là, tu dis que tu vois justement les l'élite et tout, je sais pas, il y a de l'échange, il y a de l'informel qui se crée. Parce que, tu vois, j'ai l'impression que, tu vois, notamment dans les écosystèmes sportifs qui sont peut-être un tout petit peu moins structurés, l'échange, il se fait beaucoup entre les athlètes eux-mêmes, tu vois. Ils échangent beaucoup, ils se partagent les filons. Et c'est comme ça que, tu vois, petit à petit, ils arrivent à dérouler la pelote de laine, tu vois. Est-ce que vous, c'est un peu ce qui se passe ou parce que j'ai l'impression que vous êtes obligé de beaucoup plus vous battre par vous-même que de suivre un peu le train en marche qui peut y avoir, quoi.
Je pense que quand on était en tout cas à Clairefontaine, les objectifs qu'on avait entre nous, sans se les avouer vraiment, c'est de se dire, parce qu'en fait, on était dans un brassage de génération. Moi, j'avais 15 ans, j'étais l'une des plus jeunes. Je jouais avec des filles de 21 ans, qui étaient en senior, en équipe de France A. Et nous, on était les jeunes de 15 ans. Moi, j'étais la seule à jamais avoir joué en équipe de France. Et j'étais avec des filles qui avaient déjà cette expérience. Et en fait, l'objectif des filles qui étaient là, c'était de jouer dans les meilleurs clubs français et d'être en équipe de France A. Ouais. Il n'y avait pas d'ambition de gagner de l'argent ou quoi que ce soit, mais d'être en équipe de France A. C'était ça, en tout cas. Okay. Et d'avoir des bonnes conditions d'entraînement.
Ok. Et c'était déjà toute la génération, toute la super équipe que vous avez eue, qui est restée ensemble très longtemps. Je pense, il y a Wendy, il y a Eugénie. Je t'avais dit, j'ai un problème avec les prénoms, mais c'est toute cette équipe-là que vous avez, qui était déjà présente à cette époque-là. C'était déjà un peu la génération.
Alors moi, je les ai pas connus en centre de formation. Ouais. Wendy, il faut savoir qu'elle a un parcours particulier. Elle est venue de Martinique, donc elle a elle a pas connu Clairefontaine. Ouais. Mais moi, c'est les Camille Abili, Camille Abili avec qui, bon après.
Elles vont te gronder si tu te souviens pas.
Non, c'est qu'en fait, non. C'est qu'en fait, on a été dans elles ont été dans les espoirs. Et, ah oui, Marie-Laure Dely et Elodie Thomis. C'est cette génération-là. Élise Boussaglia, on était à Clairefontaine. Okay. On a été à Clairefontaine ensemble, les 85, 86 et 84, on était à Clairefontaine ensemble. On a joué à peu près dans les plus gros clubs, Paris Saint-Germain, Lyon, Montpellier. Et puis, on s'est retrouvés. En fait, il faut savoir qu'en 2011, on est à peu près 60-70% de filles du centre de formation. Ouais. Donc, ça veut dire que l'objectif est atteint pour la Fédération française de former l'élite pour les Coupes du Monde.
Ok. Et hyper intéressant en tout cas, et de pouvoir renouer un peu les bouts du puzzle. Mais il y a une question qui me démangeait, enfin en tout cas un sujet qui me démangeait depuis le début, c'était ton passage aux États-Unis. En plus, j'ai interviewé cette semaine Kevin Tilly. Alors peut-être que son nom te dit rien, c'est un volleyeur. C'est une grande famille de volley, les Tilly. Et lui, il est pareil, il est en équipe de France, il a plus de 180 sélections. Je crois qu'il a passé les 200, mais bon, après, dans le volley, c'est différent. Et pareil, il était passé aux États-Unis avec une bourse. Et pour lui, c'était une grosse opportunité, justement. Et il m'avait expliqué que ça avait été pour lui, un énorme tremplin dans sa carrière de sportif, notamment parce que il n'a pas intégré le professionnalisme tout de suite, mais un peu plus tard, et ça l'a permis en fait, aux États-Unis, d'être le capitaine de son équipe, de jouer énormément, une aventure humaine incroyable, des moyens aussi qui sont colossaux, enfin, on va dire plus importants qu'en France, et d'être du coup des connaissances, tu vois, en kiné, avec un préparateur physique, ce qu'il aurait peut-être pas eu dans un club français. Et du coup, ça m'a ouvert les yeux de me dire ah ouais, en fait, ça peut arriver dans une carrière de sportif de s'exiler pendant quelques années. Et cette semaine, je vois ça sur toi. J'étais pas du tout au courant. T'es passé à Boston 3 ans quasiment. Est-ce que tu pourrais déjà me dire quelles sont les raisons de ce choix, et parce que c'est un pari hyper risqué, quoi. T'es à Clairefontaine et tu choisis de partir aux States.
En fait, je suis à Clairefontaine. Normalement, à Clairefontaine, tu fais 3 ans. À l'époque, on faisait 3 ans. Et moi, je fais 5 ans. Je fais 5 ans parce qu'en fait, c'était plus intéressant pour moi de continuer à m'entraîner à Clairefontaine, d'avoir 5 séances d'entraînement, que de revenir jouer au Paris au Paris Saint-Germain m'entraîner 3 fois par semaine avec un effectif qui peut changer. Alors qu'à Clairefontaine, j'y suis resté 5 ans. Ça n'a pas été évident. Il y a des moments où j'ai voulu arrêter. Mais je reste à Clairefontaine parce qu'en fait, j'ai les meilleures conditions. Je suis en équipe de France à l'âge de 17 ans. Okay. Mon premier stage à 16 ans, et à 17 ans, je suis titulaire déjà. Je joue ma première Coupe du Monde à 18 ans aux États-Unis en 2003. Ouais. Mais à un moment, j'arrive où je connais le championnat français. Et puis en plus, je suis cataloguée comme une joueuse agressive. Sur les championnats, les filles, elles se plaignent de moi. Même au centre de formation, je suis agressive. Et je me dis, il est temps de couper, quoi. J'ai toujours été intéressée par l'anglais, apprendre l'anglais, parler anglais. Où j'ai grandi, c'est un des plus gros sites touristiques de France, le château de Versailles. Donc, je m'entraînais même avec les touristes à leur demander l'heure en anglais pour tester mon anglais. Il fallait. Donc, du coup, une de mes collègues de chambre, elle part à Rutgers. C'était une franco-anglaise. Elle part à Rutgers, dans le New Jersey. Et elle me dit, hey, Laura, il faut que tu viennes jouer avec nous. C'est l'équipe Rutgers, pour ceux qui connaissent le soccer, le football, c'est l'équipe de la capitaine Carly Lloyd, l'ancienne capitaine, ou la capitaine américaine, Carly Lloyd. On est à peu près de la même génération. Ouais. Elle me dit, Laura, viens, tu vas voir, ça va être intéressant. Donc, j'échange avec leur université, ils connaissent mon profil, ils savent que je parle anglais. Et en même temps, bah, Boston College vient en spring break à Paris.
Ok.
Et je parle à mon coach, je suis en centre de formation la semaine, je lui dis, il y a un match PSG-Boston College. J'ai l'ambition de penser à mon avenir après ma cinquième année. Est-ce qu'il serait possible d'aller jouer contre l'équipe, de me libérer? Il m'a dit, je sais ce que tu as envie de vivre une autre expérience. Va jouer. À l'issue du match, Boston College vient me voir et me dit, est-ce que vous parlez anglais? Est-ce que tu parles anglais? Est-ce que tu serais intéressé pour étudier? Je lui dis, oui, je serais intéressé. Et puis, on reste en contact avec Boston College et Rutgers en même temps. Et Boston College me dit, on t'invite 3 jours à Boston. Et je dis, oh, donc je vais à Boston College, et c'est une fac qui est juste magnifique.
C'est incroyable, c'est une ville étudiante incroyable.
Une ville étudiante incroyable. Le campus est juste génial, pas trop grand.
Il y a quoi? Il y a le MIT, il y a Harvard. T'es au bord de l'océan.
Montagne, pas très loin. Boston, c'est cosmopolite. Il y a des Haïtiens, donc ils parlent le créole. Je suis d'origine antillaise. Donc, je passe les 3 jours sur place et j'adore Boston. Les gens sont sympathiques, les joueuses, je les rencontre forcément, et puis j'arrive en plus le soir où ils ont leur événement pour les athlètes. Donc je vois l'atmosphère, les installations juste exceptionnelles. Je me dis, ouais, c'est ce que je veux. Et puis j'ai un compatriote guadeloupéen qui me vend l'université comme jamais. Je me dis, ouais, je reviens en France et là je dois faire un choix. À ce moment-là, je suis en école de management à la Défense. Et je vais voir le directeur de l'université, Léonard de Vinci, à la Défense. Ouais. Je vais voir le directeur, qui est américain. Je ne connaissais pas, donc j'apprends qu'il est américain et il a grandi à Washington. Et je dis, voilà, j'ai Boston College et j'ai Rutgers. Quel choix je dois faire? Il m'a dit qu'en université, quand il y a un choix universitaire, c'est le cœur qui doit parler. C'est pas le prestige. C'est de savoir comment on se sent. Quand on rentre dans une université, le cœur, il doit battre. On doit sentir quelque chose. Et je lui dis, en tout cas, moi, j'ai été invité à Boston et j'ai adoré. Et je pense que j'ai fait le meilleur des choix. À Rutgers, en fait, c'est state school. Donc, quand on dit state school, c'est-à-dire que tu es dans une ville universitaire. C'est-à-dire que tu dois prendre la voiture pour aller au département marketing, aller manger dans un autre département. Ouais, j'ai fait le meilleur choix d'aller dans une école qui était en plus religieuse. Donc, en même temps, je me retrouve dans mes valeurs de religion. Mais c'est aussi une université qui est apaisante, des gens de valeur et très famille, en tout cas, pas très grande et c'est une université qui est reconnue en plus. Donc, elle a un prestige, un bon prestige au niveau scolaire.
Ok, c'est fou, je sens que que t'as beaucoup de bons souvenirs là-bas quand t'en parles.
Ah, c'était pas toujours évident, mais plus je prends de l'âge, du recul, et puis je me dis, waouh, c'est quelque chose quand même. Ça a été génial. Ouais. Et les gens, quand j'étais sur place, me disaient, ça passe très vite, faut profiter. Et ils ont raison, c'est vrai. C'était quelque chose d'exceptionnel. Vraiment. Pour l'avenir, là, ça a été super.
OK. Tu t'organisais comment? Enfin, il y a un phénomène de bourse. Comment ça se passe un petit peu du point de vue logistique et tout? Parce que c'est pas si évident que ça, tu vois, tu vois, sur les papiers, c'est compliqué. Sur les bourses, c'est compliqué. Est-ce que toi, en tout cas, tu l'as vu comme une épreuve ou au contraire, ça roulait et...
En fait, cette expérience, elle m'a permis de me dire que quand on veut quelque chose et qu'on sent qu'on est fait pour ça et que quand il n'y a pas de doute,
ça passe,
toutes les choses se passent comme il faut. Donc du coup, quand Boston College et que j'ai fait le point avec le directeur de l'école me dit, écoute ton cœur, je me dis, c'est Boston College. Je dois passer le TOEFL, donc c'est l'examen pour voir mon niveau d'anglais, voir est-ce que je suis capable d'étudier en anglais. Je le passe, je passe un coup de fil. Une semaine plus tard, j'ai l'examen. Je le prépare même pas. si je le prépare quand même, j'ai 2-3, mais je me prends pas la tête. Je me dis, on y va. Donc ça, j'ai la moyenne, j'ai les bons résultats pour avoir le niveau d'anglais, parce que ça quand même, il y a une exigence. Je fais traduire l'ensemble de mes cours de management pour qu'ils comprennent à quel niveau je peux intégrer. Donc, j'entre en deuxième année. J'entre pas en troisième année, mais j'entre en deuxième année. Et puis, je me dis, c'est bien d'être en deuxième année, comme ça, j'ai encore... Donc, sophomore, et ensuite junior. C'est-à-dire que j'ai sophomore, junior and senior. Donc, j'ai 3 ans. Donc, j'ai le temps de comprendre cette culture. tout se passe bien, je dois rédiger en fait ma lettre de motivation, tout ça en anglais. Donc j'ai des gens qui m'aident en interne à l'école de management Léonard de Vinci, j'ai des gens qui m'aident à corriger mes fautes. Tout passe en fait. Ouais. Et en je les ai joués en mars, avril, mai. En mai, j'ai rendu tout mon dossier sans que ce soit compliqué, c'était juste naturel et je suis devenue étudiante en juillet. Et en juillet, mi-juillet, j'étais à faire la pré-saison avec l'équipe de foot. Tout s'est bien passé. Et puis, la seule question que je me suis posée, est-ce que je vis campus, hors campus? Et à 19 ans, je me suis dit, ah, faut que tu vas enfin avoir ton appart. Parce que j'étais en centre de formation. Donc, je me dis, faut que j'ai mon appart à moi. Je vais vivre hors campus. Et l'ami guadeloupéen sur place, il me dit, arrête tout de suite. Vis sur le campus et vis la vie américaine. Okay. Et c'était le meilleur des conseils parce que je me voyais pas en hiver bostonien, moins 15 degrés, prendre un bus, ah non, et puis manger, oh, ah non, tout était sur place, on avait des restos, j'avais une full scholarship, donc j'avais une bourse, tout était payé, ça c'est ma chance, et puis d'être sur place, dans le campus, c'était... et on a une carte pour aller manger, tout était simple, voilà.
Ouais c'est American life, quoi.
Ah, c'était, j'étais dans un film.
Ouais, ok. Mais, mais c'est génial, ça donne envie, mais, et tu vois, c'est un truc, on en parle très peu, je trouve, en France, de cette possibilité-là de d'aller aux États-Unis et de d'avoir une bourse et d'utiliser le sport comme un moyen de promotion et en même temps d'avoir accès à des une vie universitaire et premium, quoi. Même si on a d'excellentes écoles et d'excellentes études en France, on n'a pas du tout à rougir à côté de ça. Bien au contraire, mais en tout cas pour les sportifs, je trouve que c'est génial, quoi. Et le foot dans tout ça, est-ce que le niveau est bon? Est-ce que tu t'éclates? Les filles sont géniales? Est-ce qu'on t'accueille bien dans l'équipe? Est-ce que on te requalifie de joueuse agressive et dure? Comment ça se passe sur le terrain?
Bah en fait, je reprends confiance en moi aux États-Unis. Le niveau est plus faible qu'en France. Ça, c'est clair. J'arrive à un moment où c'est des filles qui sont universitaires. Elles font du foot parce que elles ont envie de faire du sport. C'est bien de faire du sport à côté de ses études. Elles sont pas dans l'esprit de dire, ah, je vais être professionnelle et être internationale. Même si on avait quelques jeunes internationales américaines. Okay. Mais les gens sont pas compétitifs. Les filles, compétitifs, si, sur le terrain, mais pas à se dire, ah, il faut absolument que je sois titulaire et pourquoi elle? Non, non, non. On a quand même un bon état d'esprit dans l'équipe. Le niveau est plus faible. Donc, du coup, c'est là où, en fait, je rencontre George Mumford, qui est le psychologue sportif de notre équipe de foot, de l'équipe de basket, qui, en fait, nous fait de la sophrologie et de la psychologie. Et en fait, j'accroche très rapidement avec lui. George Mumford, il faut savoir que c'est un des psychologues qui a suivi les Chicago Bulls durant leurs années de triomphe. Et je lisais dernièrement encore 11 Rings de Phil Jackson, où en fait, il le cite. George Mumford a été demandé par Phil Jackson pour aider Michael Jordan et Kobe Bryant, en fait, à être moins individualistes et à être plus au service de leur équipe.
Okay.
Et être aussi à comment on gère ces matchs pour être dans le moment présent. C'est vraiment... Ouais. Et puis, il a un livre actuellement, George Mumford, sur mindfulness. Donc, en fait, comment être concentré sur la tâche quand on est un athlète.
Okay.
Quand je rencontre George, je lui dis, écoute, George, je suis international. Je suis en équipe de France, en fait, déjà à 16 ans, 17 ans. Et je vais en université. Le niveau est plus faible. Mais l'entraîneur d'équipe de France, Elisabeth Loisel, à l'époque, me fait confiance. Je me dis, j'ai pas envie de perdre mon niveau. Comment je fais? Mais je suis avec des joueuses qui sont... les entraînements, ils sont plus ou moins élevés. C'est plutôt moyen. Il me dit, écoute, et là, je progresse énormément avec lui parce qu'il me dit, voilà, il me donne certains conseils de me concentrer sur le... Comme si, en fait, jouer à un international. Ouais. D'être très dur même à l'entraînement. Et en fait, à l'issue de mes 3 ans...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bah, je suis dans la liste des FIFA, de FIFA meilleure joueuse mondiale. Et en fait, j'avais progressé, pas parce que je m'entraînais plus, mais parce que mentalement, j'étais à un autre niveau. J'étais confiante en moi. Et ça, il m'a apporté énormément sur cet aspect-là.
Ok. Et c'est un truc que tu as ramené en France, parce que tu vois, dans la culture américaine, effectivement, tu vois, j'ai l'impression que le, tu vois, le mindset, le personal development, la motivation et tout, et même le fait d'avoir un coach, tu vois, aux États-Unis, tu vas voir, que ça soit, je pense, une Oprah Winfrey, une Rihanna, ou que tu vas voir, je sais pas, Michael Jordan, ils ont tous un coach personnel, tu vois, et ils essayent toujours un peu d'avoir cette culture de progresser justement sur leur état d'esprit, sur leur mental. Et c'est un truc qu'on a beaucoup moins en France. Je sais pas pourquoi, mais est-ce que tu vois, c'est un truc que t'as amené avec toi et que je sais pas que t'as eu envie de transmettre à d'autres, tu vois, parce que j'ai l'impression que ça a eu un gros impact sur toi, tu vois. Tu as parlé de sophrologie, de psychologie.
Pour moi, ça a été clé dans ma carrière, en fait, d'avoir cette possibilité de m'analyser, de mieux comprendre en fait mes blocages, de mieux savoir qu'en fait les choses roulent quand le cœur est libéré, quand l'esprit est libéré.
Ouais.
Et en fait, George Mumford, en fait, il m'a suivi sur ma carrière, et c'est encore un ami avec qui j'échange énormément, même encore aujourd'hui, parce que je suis dans une autre carrière, mais ouais, les enjeux sont toujours les mêmes, toujours rester au meilleur de son niveau, mais toujours voilà, éviter de trop douter. Donc je pense qu'il est vraiment important. Moi, je le dis à certains, faut pas craindre d'être suivi par quelqu'un, d'être accompagné, parce que il est important aussi d'avoir quelqu'un qui a un regard extérieur pour nous donner une autre vision de nous-mêmes. En tout cas, moi, j'encourage les entraîneurs d'être accompagnés par des psychologues du sport. Mais après, il faut avoir des gens compétents, il faut avoir aussi cette confiance. Et là, en France, on n'a pas encore cette mentalité à intégrer dans son staff un préparateur mental, un psychologue du sport. Je ne sais pas quel titre il faudra avoir, mais je pense que ça aide. En tout cas, quand on fait confiance à quelqu'un, je pense que ça peut donner un autre niveau à une équipe.
Ouais, clairement, ouais. Mais tu vois, ça devient... moi, tu vois, je viens plutôt du monde de l'entrepreneuriat, et ça devient de plus en plus commun maintenant pour les grands entrepreneurs, tu vois, qui vont avoir des centaines, des milliers de salariés, parce que tu vois, c'est un peu l'unité de mesure, c'est un peu comme les médailles pour un sportif, mais c'est le nombre de salariés, ça indique la santé d'une entreprise. Et il y en a de plus en plus, tu vois, notamment sur la jeune génération, qui vont effectivement se faire accompagner par quelqu'un qui va leur permettre de débloquer des croyances limitantes ou débloquer ce genre de choses, quoi. Mais ouais, j'ai l'impression que dans le sport, ça commence à arriver, mais qu'on en doute encore un peu, alors qu'on voit, tu vois, tous ceux qui goûtent te disent les résultats que ça a sur eux, et même pas forcément en termes de résultats, mais en termes de bien-être ou de conscience de soi. Et je comprends pas pourquoi tout le monde ne s'y met pas encore, tu vois. Donc je sais pas si toi t'as
je pense qu'en sport individuel, c'est vraiment une culture qui commence à vraiment s'imposer,
ouais,
en
ouais,
France.
Clairement, ouais.
Tennisman, tenniswoman, les judokas.
Ouais.
Mais nous, on est dans un sport d'équipe.
De combat, ouais.
Et les sports d'équipe, les coachs, pour qu'ils aient confiance, hein, des gens externes ou autres. Déjà, des coachs, on leur impose parfois un staff.
Ouais.
Et on pense pas dans les staffs à avoir un psychologue du sport. Le staff, c'est quoi? Un vidéaste, quelqu'un chargé de la performance, des préparateurs athlétiques, des kinés, des médecins, des ostéos. Ça, c'est nouveau aussi, les ostéos. Avant, les ostéos, on leur disait, ils ont pas leur place. Mais je pense que ça va venir. Je pense que ça va venir, hein. Il va suffire qu'une équipe ait un psychologue reconnu, connu dans une équipe. Et on se dit, voilà, il fait un boulot remarquable pour que ça passe. Je sais pas si à Liverpool, ils ont pas quelqu'un au niveau de la psychologie. Je ne sais pas. Mais en tout cas, au Chicago Bulls, ils ont su qu'ils avaient des psychologues. Ah oui, ça a fait son chemin. Hein. Les autres, après, ils se sont dit, ah oui, pourquoi pas.
Ouais. Attends, t'as mentionné qu'il y avait un vidéaste et quelqu'un qui était responsable de la performance. Donc le vidéaste, c'est celui qui va analyser les vidéos pour la stratégie, peut-être, de terrain. Et la performance, c'est, je sais pas, vos records personnels, enfin la VMA, ou c'est par rapport à quoi?
Alors la
performance, c'est pas mental, c'est quoi?
En fait, il y a plusieurs. Il y a la performance par rapport aux les data.
Ouais.
La partie data de voilà, celui qui va sûrement gérer les performances athlétiques.
Ouais.
Et puis il y a ceux qui sont de la performance en termes de la nutrition.
Okay.
Voilà, l'aspect nutritif, il y en a qui vont être là spécialement pour équilibrer les repas des, pas équilibrer les repas des joueurs, mais tout ce qui va être boissons énergétiques, qui sont chargés de savoir ce qu'un joueur va devoir ingurgiter selon sa blessure ou pour les récupérations d'après match, et puis à la performance, les datas, comment analyser les résultats, les performances des joueurs.
Ok. Voilà. Ok.
Pour maximiser leur performance du week-end.
Je comprends mieux. Merci en tout cas pour les explications. Et c'est, il y a tout ce staff depuis le moment où...
Puis il y a les chercheurs à l'intérieur de la performance. Les chercheurs aussi.
Il y a les chercheurs. Ouais, faut pas les oublier. Aussi. Ok. Et il y a tout ça aux États-Unis dans une équipe universitaire?
Non.
Ou, non, c'est...
Par contre...
Il y a les moyens, je pense, complexes. Enfin, en...
Alors, en universitaire, par contre, j'étais assez déçue par, au niveau médical.
Ouais.
C'est-à-dire qu'au niveau médical, on avait des kinés, mais ils disaient, bon, tu as mal ou ils nous donnaient de la glace. Hein. Des poches de glace ou des poches de chaleur. Et puis il y avait pas de massage. En fait, un kiné ne masse pas. C'est-à-dire que il va regarder si ça a une blessure ou pas. Mais en fait, pour les massages, il faut aller voir un spécialiste du massage.
Okay.
Donc, en termes de soins, c'était pas le top. Okay. Par contre.
Ouais. Ok, d'accord.
Mais en termes d'installation, c'était super. Pour aller faire de la gym, on avait des salles de muscu. Waouh, impressionnantes.
Ouais. Et quand t'étais appelé, du coup, en équipe de France, tu faisais des allers-retours.
Je faisais des allers-retours une fois par mois. Je voyais plus ma famille que certains Américains eux-mêmes.
C'est vrai.
Ouais.
c'est drôle comme anecdote. Ouais. Et du coup, ouais, tu fais la rencontre de Georges, c'est ça?
Georges, oui. Ouais.
Et il y a eu d'autres rencontres marquantes ou d'autres, tu vois, d'autres anecdotes qui t'ont vraiment propulsé et tout, parce que j'ai l'impression que ça a été vraiment, tu l'as présenté comme un petit peu un retour en arrière au niveau technique sur le terrain et tout. Mais que niveau mental, ça a été encore plus. Enfin, ça a été un vrai tremplin. Et il y a eu d'autres rencontres qui t'ont.
Alors, Georges, ça a été vraiment particulier. Ça a été vraiment clé pour la performance mentale. Et puis ensuite, c'est tous les gens que j'ai rencontrés. Ouais. Ce soit la femme de ménage, que ce soit les jeunes à la restauration qui me servaient, que ce soit mes professeurs, mon professeur de philosophie. Parce que j'ai fait de la philosophie à l'université.
Okay.
Et ça, c'est là où, en fait, je me suis dit, la philosophie, c'est tellement enrichissant.
Ouais.
Mais on n'est pas assez, on n'est pas assez mûr lorsqu'on apprend la philo dans une année de bac. Puisqu'on est stressé en disant, il faut faire du résultat. Alors que quand
d'accord.
on est plus mûr, la philosophie, en fait, on se dit que les gens, ils connaissent la vie, ils la comprennent. Ouais. Et on pourra toujours utiliser les conseils, les recommandations pour des années à venir. C'est ouais. impressionnant. La maturité, enfin, je pense qu'il faut que chacun puisse étudier la philosophie quand il est mûr. Ou à l'université, c'est un moment, je pense, qui est clé. Donc, j'ai rencontré des gens qui, en fait, des étudiants, j'ai été inspirée par des étudiants qui venaient avec l'objectif. J'ai une amie qui était d'origine nigériane. Du Kenya. Dans son pays, il y a beaucoup de taux de sida, de mortalité due au sida.
Okay.
Elle me dit, ouais, je vais être épidémiologiste pour okay. aider mon pays. Donc, en fait, je me dis que les gens, ils viennent avec des objectifs clairs.
Ouais.
C'est pas, on est étudiant,
c'est,
bon,
c'est
j'y vais
mission,
parce que
quoi.
C'est la suite. Ils sont en mission.
Ouais.
Et je vois aussi des sportifs qui viennent, ils ont eu des bourses. Malheureusement, c'était des grands sportifs au lycée, mais malheureusement, ils peuvent pas devenir pro.
Ouais.
Mais, en étant étudiants, ils se sont dit, ben, maintenant, je vais faire un MBA.
Ouais.
Et grâce au sport, ils ont pu faire de hautes études, ils sont plus pro. Mais, grâce au sport, ils ont pu faire des hautes études et ils ont des postes importants.
Ouais.
Et là, ça m'a inspiré. Je me suis dit, oui, le foot, c'est bien. La bourse, c'est bien. Ben, j'ai utilisé. Pour moi, le foot, c'était comme un passeport. C'était une opportunité, en fait, ouais. De voyager, mais aussi de me construire en tant que femme. Et
ouais.
J'ai utilisé comme eux. Ça m'a donné l'ambition d'aller faire un master aussi.
Ouais.
Voilà. De développer, de pas juste être, me contenter d'être joueuse pro. Et puis, en plus, je suis à un moment aux États-Unis où la ligue professionnelle féminine est annulée. Donc,
ah,
j'ai
ouais.
pas l'ambition de me dire, je vais aller jouer pro aux États-Unis. Je dois repenser à venir en France. Mais je me dis, fais des bonnes études et puis poursuis avec un master.
Ok.
Voilà.
C'est, il y a eu plein de choses qui m'ont inspiré, là, effectivement, sur la philosophie. Je trouve ça un peu irrationnel de faire apprendre à des adolescents qui sont en puberté, d'apprendre à connaître ce qui se passe dans leur tête, alors qu'il se passe plein de choses dans notre corps, tu vois, à cet âge-là, et que maintenant, on, passé 30 ans, peut-être même encore un peu plus, on se connaît beaucoup mieux, et à ce moment-là, c'est un vrai plaisir de lire un bouquin de philo en ce moment, tu vois.
Ah ouais.
Alors que quand j'avais 18 ans, c'était une vraie corvée, quoi. Mais...
Non, donc... mais la philosophie, c'est, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de période. En fait, on se rend compte, mais, ah tiens, waouh, mais ça explique tout, ça, je comprends mieux. Limite, il n'y a pas besoin de faire de la psychologie. C'est, dans la philo, c'est impressionnant. Même, on pourrait revenir sur certains textes qui nous expliquerait en fait la situation de sanitaire et comment la traiter, et comment les relations humaines. Ah, c'est impressionnant. Faudrait que je m'y remette encore. Hein.
Bah, écoute, si jamais t'as 2-3 lectures ou 2-3 ressources et tout, je suis vraiment preneur. Ouais. Moi, j'en ai pas mal si tu veux, mais j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais ouais, il y a un bouquin qui s'appelle Thinking Fast and Slow et qui t'explique un peu. L'irrationnel versus le rationnel quand tu prends un choix, et c'est un bouquin qui est devenu très très côtoyé par les enfin très lu et très référencé par les marketeux. Donc c'est un gros pavé, mais en tout cas il est vraiment excellent, et en français c'est Système 1, Système 2. Je retrouverai l'auteur, je mettrai les petits liens dans la description de l'épisode, mais voilà. Et il y avait autre chose qui me marquait, c'est que t'as dit que t'as utilisé le football comme un passeport pour te construire en tant que femme. Et j'avais envie de beaucoup de parler de féminité avec toi, parce que c'est un des sujets qui ces derniers mois en fait a un peu explosé en moi, tu vois, et parce que j'ai eu une réflexion personnelle où je me suis dit, en fait, le monde serait nettement plus beau s'il était plus égalitaire, tu vois. S'il était plus juste. Et d'abord en termes de genre, et juste à tous les niveaux. Et du coup, quand t'as dit ça, je me suis dit, mais attends, c'est un des sports les plus, en tout cas moi, qui me semble le plus sexiste de tous, ou en tout cas qui montre un petit peu les mots de la masculinité, tu vois. Du coup, ça m'a semblé vachement paradoxal quand tu l'as dit. J'arrive pas à formuler ma question, mais tu trouves, enfin, tu dis que tu l'utilises, mais enfin, j'ai été incapable de dire une question, mais non, mais tu trouves pas que c'est, enfin, est-ce que c'est, t'as volontairement un peu ou inconsciemment choisi cette voie un peu la plus dure du sport, un peu le plus masculin entre guillemets, pour justement te construire en tant que femme, ou est-ce que au contraire, tu t'es senti peut-être rempli d'une mission de te dire, bah voilà, c'est un sport sur lequel il y a peut-être pas assez de féminité et que j'ai envie de supprimer la barrière du genre. Enfin, désolé, mais ma question était absolument nulle et complètement philosophique, mais tu vois, tu vois le paradoxe que je voulais te montrer de, j'ai envie de construire ma féminité dans l'écosystème le plus masculin, quoi.
En fait, moi, le football, je l'ai jamais vu comme une difficulté, ni comme un monde masculin. En fait, je me suis dit, je veux faire ce que j'aime. Oui, il y a des réflexions, mais je me suis pas dit, je me bats contre un système.
Ouais.
Je me suis pas dit, je me bats contre un système. Maintenant, étant une autre fonction, je vois l'enjeu d'être une femme à une certaine position, avec ce titre de secrétaire général. Je vois l'enjeu. L'enjeu d'être présente pour moi en tant que femme, d'être femme noire, je vois tout l'enjeu. Mais en tant que joueuse, en fait, je me suis pas dit je vais me battre contre ce système qui est très masculin. En fait, c'est juste que j'arrive à un moment où le foot, où des dirigeants tels que Loulou Nicolin, tels que Jean-Michel Aulas, foncent dans le foot féminin et mettent les moyens.
Ouais.
Et en fait, je suis une privilégiée. Et puis en fait, j'arrive au bon moment. Mais je me suis pas heurtée en me disant ah c'est très dur, on nous considère pas. J'ai pas vu, ou je l'ai vu, hein, on l'a vécu, mais je me suis pas dit ah c'est compliqué. Enfin, j'étais quand même dans l'élite du foot français. Donc quand on est dans l'élite du foot français en équipe de France ou autre, en 2011 Noël Le Graët arrive, on voyage dans des, enfin on a des super conditions avec l'équipe nationale. En club, je suis dans des clubs qui sont bien structurés. Je vois pas toute cette difficulté, mais je la vois quand je suis dans le championnat. Les filles travaillent et travaille et joue au foot. Je l'ai connu hein, quand même, cette période où j'allais à l'école.
Ouais.
Et je voyais mes coéquipières qui bossaient jusqu'à 4 heures, 5 heures, et venaient directement à l'entraînement. On s'entraînait au camp des loges sur le stable stabilisé. Et elles aimaient, c'était leur passion. Je vois les générations à venir. Là, on va inaugurer lundi à Reims le club lieu de vie de Reims pour l'équipe féminine. Je me dis, waouh, c'est génial. On est dans un sens où les choses évoluent.
Ouais.
Mais à mon époque, je me dis pas, je suis en train de me battre contre un système.
Ouais.
Je me suis juste dit, on va accomplir ce qu'on aime, quoi. On va jouer.
Ouais. Mais ça me touche beaucoup ce que tu dis, parce que effectivement, tu vois, en France, on a souvent peut-être tendance, et là, j'ai peut-être eu cette, j'ai peut-être fait ce parallèle-là, tu vois, effectivement, à quand les choses sont pas idéales, tu vois, à considérer le manque d'idéal comme un frein ou comme un opposant, un ennemi. Et tu as eu toute la réflexion inverse, quoi, te dire, bah, comment est-ce que moi je profite dans cet écosystème, quoi.
Ouais. Non, je voyais pas, en fait, les soucis, mais on allait négocier nos salles, nos primes. Je repense à ça, je dis, mais en fait, on était un peu un syndicat en interne de nos clubs où on allait dire, ouais, mais on mérite telle prime. Est-ce qu'avant, les dirigeants, quand ils avaient une équipe féminine, ils pensaient pas, tiens, il faut les filles, elles viennent nous parler de primes. On gagne pas d'argent avec vous, les filles. Mais nous, on y allait. Et puis, c'est comme ça que les clubs, on a commencé aussi à faire comme chez les garçons, demander des primes parce qu'on gagnait des coupes avec l'Olympique Lyonnais. Au Paris Saint-Germain, c'était leur faire savoir que oui, la Ligue des Champions chez les filles, ça compte aussi.
Ouais.
Mais on avait des discours, les gens, en fait, ils voyaient que la Ligue des Champions, c'était très important pour les garçons, mais chez les filles, le plus important, c'était la Coupe de France. J'ai dit, à un moment, avec des champions, filles ou garçons, c'est le même niveau. Donc, en fait, je vois qu'il y a des gens, en fait, qui sont dans le milieu féminin, qui maîtrisent pas non plus.
Ouais.
Ou qui maîtrisent pas le foot, simplement. Mais, j'ai pas de dire, je me suis jamais dit, oh là là, c'est compliqué. Je me suis dit, tiens, il y a tout à faire. Alors, on y va, les filles.
Ok, il y a tout à faire. Ouais. Encore.
Non, il n'y a pas de tout à faire. Pour les jeunes, là, qui sont là, c'est juste performer.
Ouais.
Et puis être des exemples pour les générations à venir. Ouais. Parce que si tout se passe bien pour le moment, et même s'il faut encore structurer, hein, il y a des filles qui sont quand même dans des bonnes conditions, mais se dire qu'en fait, rien n'est gagné. Parce que d'un dirigeant à un autre, les choses peuvent évoluer très rapidement.
Ouais,
et puis l'histoire nous montre qu'en fait, les choses se répètent. Donc attention, attention, il faut savoir apprécier et bosser pour que ça continue.
Ok. Je t'avais spoilé un peu en préparation, là, de juste avant qu'on appuie sur record. Je t'avais dit que j'avais une question que j'adorais, enfin, que je pose en tout cas très souvent à mes amis IES. Et comme je sais que toi, t'es une femme qui est hyper engagée pour la cause féminine et que t'as fait plein de choses, on pourra revenir un peu sur tout ce que t'as fait après, mais je voulais vraiment te poser la question, parce que c'est peut-être un petit problème identitaire, mais tu vois, je suis un peu l'incarnation du mâle blanc, quoi. Je suis blanc, je suis d'une famille qui est issue de la diversité parce que je suis d'origine polonaise, tu vois, mais je reste un homme blanc, mon papa est parti très loin mais il a réussi un peu dans la vie et j'ai 30 ans et j'aime bien avoir de l'éloquence, tu vois, et des fois on me l'a reproché, tu vois. Et pourtant, au fond de moi, comme je te disais dans ma réflexion, je savais pas si j'avais le droit de dire que j'étais un allié ou un féministe, tu vois. Mais en tout cas, je veux qu'on aille vers un monde plus juste. Et surtout, dans lequel les hommes et les femmes aient exactement les mêmes droits. Et les mêmes chances, tu vois. Et du coup, la question que j'adore poser à mes amis et que j'avais jamais posé à une athlète ou même un athlète sur ce podcast, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de la poser avec toi, c'est qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau, après tu connais pas toute ma vie ou tu connais peu de choses, mais quelles sont les choses, tu vois, que tu pourrais dire justement à des hommes qui sont comme moi, qui ont envie de faire bouger les lignes sans non plus revendiquer des choses qu'ils peuvent pas comprendre ou qu'ils peuvent pas vivre, tu vois, de leur intérieur, c'est important. Mais est-ce que ouais, il y a des messages que tu fais passer parfois aux hommes sur leur identité, sur leur rôle, pour les hommes qui ont envie de faire bouger un peu les choses, tu vois, à leur niveau et qui n'ont pas forcément une place médiatique ou qui n'ont pas forcément une place dans la société qui les met en avant plus que les autres, quoi.
Moi, je dirais simplement en fait qu'il faut avoir confiance en ce que t'as envie de véhiculer. J'entends souvent les discours qui disent « Oui, mais vous pourrez pas comprendre ce qu'on est, vous pourrez pas comprendre ce que c'est d'être noir, vous pourrez pas comprendre ce que c'est d'être une femme, ta ta ta. » Je suis pas dans ce discours-là, mais je vois beaucoup de femmes ou de personnes noires ou d'autres origines qui font déjà cette barrière. Et je pense qu'on doit pas donner cette barrière ou faire en sorte de dire aux gens « Non, vous êtes différents de nous. » Non, je suis pas dans cette idée-là. Je suis plus dans le fait de... Vous êtes bienveillant, vous avez envie d'apporter, vous avez envie de partager des messages. Allez-y, sentez-vous à l'aise avec ça. J'étais en conférence il y a 2 jours avec des sportifs sur le thème du racisme. On est dans le mois du racisme en mars. Et un des intervenants n'est pas noir, il est blanc. Benoît Chéroux. Et c'est très bien. Pourquoi il faudrait être noir, il faudrait être d'une ethnie différente pour parler de racisme. Je pense que chacun peut prendre la parole. Et nos joueurs de foot, je le dis aussi, le racisme, il se combat avec tous ensemble. Le féminisme, il se combat tous ensemble. C'est pas aux femmes uniquement de se dire « Ah, on se bat pour ça parce qu'on est femmes et les autres, non, vous pouvez pas comprendre, n'y allez pas. » Non, je me dis, en fait, c'est simplement se battre pour ce qui est juste. Et il faut pas avoir peur de dire « Oui, je suis féministe. » Être féministe, c'est simplement revendiquer ou l'idée de se dire qu'on a le droit d'être égaux. Les gens ont peur de dire « Ah, je suis féministe. » Même des filles, hein, des femmes disent « Ah non, je suis pas féministe. » Parce qu'on catégorise les féministes comme des femmes agressives ou autres. Non, il y a différents styles de féministes. On a différents types de personnalités. Mais je suis vraiment à me dire qu'en fait, les gens ont le droit de s'exprimer pour ce qui est juste.
Ouais.
Qu'on soit noir, qu'on soit blanc et qu'on a envie de défendre le racisme, allons-y. Lorsque je vois quelqu'un qui est agressé, lorsque je vois quelque chose qui est injuste et que j'ai envie de dire « Non, ce n'est pas juste. Oui, il faut vous soutenir, il faut soutenir telle personne. Que je sois blanc, que je sois noir ou que je sois d'une autre origine. » Et j'ai envie de le dire, oui. Et si ça dérange les gens, malheureusement, c'est que ces gens-là n'ont pas compris le but. Ce n'est pas du marketing que de parler de racisme. C'est pas de se dire, oui, on est une communauté, on a envie d'être reconnu. Les gens oublient que l'objectif de parler de racisme ou autre, c'est de faire avancer les choses. Et quelle que soit son origine, allez-y, qu'on soit un homme ou une femme et qu'on a envie de défendre la cause du féminisme. Allez-y, ne soyez pas gênés. Au contraire. Les gens intelligents, normalement, comprendront que ces gens-là sont bienveillants et que tu es bienveillant et que tu as envie de faire passer les messages. Moi, je dirais, sois à l'aise avec les choses. Ce qui peut arriver, qui peut être dérangeant, c'est les gens qui s'approprient des thèmes pour faire du buzz sur les réseaux sociaux, qui ne maîtrisent pas. On a le droit de ne pas maîtriser les sujets. Ça arrive.
On est tous
bêtes. Mais d'être authentique, en tout cas, avec les choses. Oui, je ne comprends pas. Et oui, parfois, on peut dire, oui, bah, je sais pas exactement ce que c'est. Mais on a le droit, et juste être honnête avec la personne et dire, voilà, mais j'aimerais avoir une discussion, donner la parole. Aujourd'hui, tu me donnes la parole sur ce thème-là. C'est déjà aussi une reconnaissance. Tu vas interviewer d'autres personnes, et si tu as envie de faire avancer les choses à travers ton podcast, tu vas, en donnant la voix à certaines personnalités qui ne sont pas connues ou connues, tu donnes l'opportunité de faire passer des messages. Donc, à chacun sa manière de faire passer des messages. Il y en a, ils ont besoin d'aller dans les rues. Il y en a qui n'ont pas besoin d'aller dans les rues. Qu'ils font à travers des tweets, qu'ils font à travers des actions, qui sont des chefs d'entreprise qui disent, voilà, je prends la décision de mettre des hommes blancs ou des femmes noires ou peu importe à des positions. Les gens agissent différemment. Et puis, il y a ceux qui font du fake pour dire qu'ils sont partout. Mais on juge les gens avec leur cœur et avec ce qu'ils font. Moi, je pense qu'il faut que les gens se sentent à l'aise. Se sentent à l'aise avec ce qu'ils... Et si les gens ne les acceptent pas, c'est qu'ils sont sûrement pas bien entourés. Mais moi, un homme qui me dit, moi, j'ai envie d'aider la cause, je dis, vas-y, bienvenue. Et puis, si tu veux, je te briefe pour que tu sois à l'aise. Voilà.
Mais... Non, mais tu vois, moi, j'ai, bah, à mon petit niveau, j'ai harmonisé les salaires dans mon équipe. J'ai fait un peu de discrimination positive pour avoir 50% de femmes dans mes équipes. Beaucoup sur la diversité aussi. J'ai beaucoup, et ça a été un, c'était aussi un sujet, tu vois, de me dire, est-ce que sur un, si j'ai deux candidats pour qui veulent intégrer mon équipe, est-ce que je fais un peu de discrimination positive? Je me suis beaucoup posé la question pendant un moment, parce que tu sais, bah en tant qu'entrepreneur, tu recherches la performance. C'est un peu t'es un peu le coach de l'équipe, tu vois, comme un coach, tu dois en connaître plein. Mais et est-ce que tu te dirais, ok, est-ce que je vais faire de favoriser quelqu'un parce que pour un critère qui est autre que celui de la performance et du sport, tu vois. Donc je me suis posé la question moi des moments et écoute, je me suis dit j'ai envie de suivre mes valeurs et j'ai envie que mon équipe elle représente le monde, tu vois, dans notre équipe. Et franchement, je regrette pas du tout. Franchement, ça a été un des meilleurs choix que j'ai fait et t'as raison, faut être à l'aise avec ses choix, quoi. Faut être à l'aise avec ses choix. Mais c'est pas toujours évident, tu vois. Et sinon, il y a un autre truc que je fais, c'est si jamais je vois une fille qui se fait emmerder dans la rue, je m'arrête. Je m'arrête et je regarde. Je suis pas un violent, mais je m'arrête et je regarde et ça fait son effet généralement. Mais pourtant, je suis pas très musclé, je suis pas costaud, mais le fait qu'un homme regarde un autre homme, le regard peut le gêner, tu vois. Mm. Et ça j'ai compris il y a pas longtemps, et c'est puissant comme arme. C'est puissant comme arme. Juste de s'arrêter de regarder, quoi. Juste de pas ignorer, de montrer que...
Je connaissais pas cette technique, parce qu'en fait, il y en a qui disent, moi, j'interviens et je parle. Il y a des hommes qui me disent, bah, moi, j'interviens pour voir avec la fille, est-ce que ça va, est-ce que... Mais cette technique, oui, c'est aussi une autre technique. Je pense que c'est aussi bien de la faire passer pour les gens qui sont beaucoup plus timides.
Mm. Ouais, mais... Moi, je suis pas un bagarreur, donc je me vois pas trop.
Tu fais avec ta technique.
Voilà, exactement. Voilà.
Non, il faut faire avec ses armes.
Je regarde. Ouais, voilà, ouais. Je regarde l'homme et ça marche bien. Mm. Mais je voulais le temps passe super vite et bon, moi, chaque minute, chaque seconde passée avec toi, c'est un petit peu plus de bonheur dans ma vie, donc je pourrais gratter très longtemps. Mais je voulais peut-être terminer un peu cette interview sur savoir quel est. On en a déjà parlé un petit peu en début de conversation, mais comprendre mieux quel était ton rôle aujourd'hui, et surtout comprendre qu'est-ce qui avait fait, pourquoi t'as fait ce choix. Peut-être je te donne un tout petit peu de contexte, mais. Quand on regarde, par exemple, l'équipe de France 98, t'as tous ceux qui sont devenus entraîneurs et puis tous ceux qui ont fait les médias. Et il y en a très peu qui sont dans les institutions ou qui sont dans la fédération. Et du coup, je me demandais pourquoi, qu'est-ce qui t'a tenté? Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce type de poste? Et quelle est la mission que tu portes à l'intérieur de toi?
En fait, ce poste de secrétaire général, j'ai jamais brigué. J'étais encore joueuse du Paris Saint-Germain lorsque le président Noël Le Graët constitue sa liste en interne et me contacte. Je savais pas pourquoi. Je suis pas du tout l'actualité de la fédération à l'époque. Et il me dit, ben, j'aimerais échanger avec toi. J'aimerais qu'on parle. Je lui dis, bon, bah, c'est pour parler des dom-toms. Vous avez besoin d'un coup de main. Il me dit, peut-être, entre autres. Et il me demande à me recevoir. Donc, il m'explique, en fait, qu'il souhaiterait que j'intègre sa liste.
Okay.
Et donc, je lui dis, moi, je suis encore joueuse, hein. Il y a l'équipe de France. Est-ce que ça va pas être un problème que d'être dans votre liste, il me dit, écoute, je connais ta personnalité. Je sais que t'es quelqu'un qui a des idées. J'avais fait un gros article, malgré moi, sur le président du Paris Saint-Germain. C'était ressorti, bon.
Ouais,
en gros, on fait savoir que j'ai du caractère et tout ça. Et il me dit, voilà, j'aimerais que tu intègres mon comité exécutif. Je lui dis, bon, vous avez besoin d'une femme, vous avez besoin de diversité, je suis noire, ça tombe bien. Il m'a dit, non, parce que quelqu'un qui n'arrive pas à me représenter ou la fédération, ça peut pas fonctionner. Donc non, c'est au-delà de ça. Et je lui dis, j'ai besoin de temps de réfléchir. Je rentre à la maison et j'y réfléchis, j'en parle à ma famille.
T'es pas étonné quand même?
Parce que... Je suis étonnée, mais je vois pas, en fait, ce que ça représente, en fait. J'ai le président qui m'a parlé, ok, il est sympa, je sais qu'il a fait beaucoup il a beaucoup fait pour le foot féminin, mais je me rends pas compte de ce que ça peut représenter, d'être dans un comité exécutif, parce que c'est ça dont on me parle, hein, d'être un comité exécutif, on me parle pas de poste. Donc, je suis à la maison, j'en parle, et on me dit, mais est-ce que ça te ressemble pas, Laura? Que de faire passer des messages, que mener des projets? Défendre le football féminin. Bon, faut savoir que pour mon bac, j'avais avec mes coéquipes, des collègues à moi, on avait fait un TPE sur le foot féminin. Mon travail de recherche de master, c'était sur le développement du foot féminin dans les médias. Voilà, ça tourne autour du foot féminin. J'ai intégré la commission de féminisation de la Fédé il y a quelques années. J'étais joueuse. Mais moi, tout ça, en fait, je vois pas en fait qu'il y a du sens en fait. Oui, il y a du sens. J'ai toujours été engagée ou en me disant qu'il fallait que j'aide le foot féminin d'une manière ou d'une autre. Puis je me dis, ouais, c'est facile de critiquer les fédérations, de se plaindre. Je dis, on y va et puis on va apporter ce que je suis. Ça se lit. Mon poste de secrétaire général, il est pas dans les bouquins.
Ouais.
Je me souviens, j'avais une petite stagiaire, elle me dit, alors qu'est-ce qu'il faut comme étude? Je lui dis, je ne sais pas. Et puis on me dit, mais il faut faire quoi? Alors il faut que je fasse. Et en fait, je l'apprends tous les jours. Et j'ai la chance d'avoir des mentors. Une mentor, ma vice-présidente, Brigitte Henriques. Mais en fait, ça se fait tout naturellement. C'est quand même frustrant. Je deviens secrétaire générale.
Ouais.
Président de Manon s'est dit, tu seras notre secrétaire générale. Alors, pour expliquer un peu ce que c'est que secrétaire générale d'une fédération sportive, secrétaire générale ou une secrétaire générale, c'est quelqu'un qui a la vision stratégique et économique.
Ouais.
C'est un manager général. Mais moi, en fait, je suis atypique. Notre fédération fonctionne comme une entreprise. On a un CEO, une CEO. Donc elle, c'est elle qui a cette vision stratégique et économique. Moi, en fait, je suis une ambassadrice du football français sur la métropole et à l'étranger et dans nos territoires ultramarins. J'ai cette mission, en fait, de représenter le président. Je peux inaugurer un stade, je peux représenter le président, je peux rencontrer un groupement de femmes et d'hommes pour les inspirer, partager mon expérience. Je rencontre des joueuses, des joueurs. Durant le Covid, j'étais souvent en visio avec des clubs pour inspirer les jeunes, leur parler de motivation, leur parler de stress, de gestion des émotions. Je fais de tout. On invite les fédérations étrangères. C'est moi qui introduis. Je signe les conventions de nos départements. Bon, il y a au préalable, il y a un travail de notre équipe internationale, mais je termine le boulot avec les secrétaires générales, avec des échanges, des signatures de conventions. Mmh. Je fais de tout. C'est multiple. Et en fait, je regrette pas mon choix à un an de la Coupe du Monde féminine. Mmh. Parce que les gens m'ont dit, mais pourquoi t'as pris ce poste? Tu valides ce poste et que t'arrêtes ta carrière? Il y a la Coupe du Monde à la maison. Et je leur dis, mais... Déjà, je leur dis, le dernier stage que j'ai fait avec l'équipe de France, j'ai senti que c'était fini pour moi, dans le sens où j'ai pris plus de plaisir à passer du temps avec les supporters qu'à m'entraîner. Et j'ai dit, là, c'est bon, c'est le moment d'arrêter. Mmh. J'étais plus titulaire, en plus j'étais au Bayern, j'étais plus titulaire. Le coach, il voyait déjà que j'allais arrêter. Et puis j'ai ce pote de secrétaire général, et je me dis, Laurent, on y va avec le cœur, avec ce que je suis. Et puis je vais sur les territoires, je suis invitée. Et je dois développer le football, l'arbitrage féminin. C'est ma mission, au-delà d'être ambassadrice, c'est d'être sur le territoire. Je dois développer l'arbitrage féminin. Moi, je suis une joueuse. L'arbitrage, j'ai réappris à savoir ce que c'était en allant voir les joueurs, les arbitres professionnels masculins, féminins. Enfin, c'est très enrichissant et je regrette pas. Je regrette pas. Et là, on est sur un nouveau mandat. Et là, je me dis, je maîtrise mieux ce que c'est et je vois un peu mieux ce que je peux vraiment apporter sur nos territoires. Et moi, on dit en anglais « embrace », de vraiment prendre ce rôle, parce qu'il faut savoir que j'étais gênée, hein, même de dire « je suis secrétaire générale ». Ah ! Mais je me soigne sur ça. Je le prends ce rôle et je vais l'incarner totalement. C'est mon objectif pour vraiment faire bouger les lignes et donner encore plus de puissance à notre football, que ce soit amateur, chez les filles et chez les garçons. Vraiment faire passer des messages.
Ouais. Ok. Donc, rencontrer beaucoup de gens, faire passer beaucoup de messages. Et tu rencontres beaucoup de femmes arbitres?
Ah oui, j'ai une bonne partie, puisqu'en fait, mon dossier, c'était de développer, donc j'allais beaucoup sur les séances d'entraînement.
Ouais.
Là, un peu moins, parce que je suis sur d'autres dossiers maintenant, je vais commencer à être sur d'autres dossiers, mais j'en verrai toujours.
Et on commence à voir quelques femmes sur les terrains de foot, même masculins, qui arbitrent. Est-ce que tu penses qu'un jour... ça arrivera qu'il y ait une parité parfaite dans l'arbitrage.
Ça a bien bougé, hein. Franchement. Bon,
déjà, ça a bien bougé. Quand on voit une femme sur un terrain de Ligue 1, c'est déjà beaucoup.
Vraiment, je suis vraiment heureuse de voir Stéphanie Frappard être à l'élite. Elle a arbitré deux Coupes du Monde.
Ouais.
Finale. Les moins de 20 ans et la Coupe du Monde féminine. En France, on n'a jamais eu un arbitre qui a fait une finale de Coupe du Monde. Ouais. Donc, elle l'a fait. Elle a fait la Super Coupe au niveau européen. Elle a fait la Ligue des Champions masculine. Là, on peut peut-être teaser pour l'Euro. Est-ce que ça ne sera pas la première femme à être officiellement intégrée à un Euro masculin? Une compétition masculine majeure. Parce qu'on a eu des arbitres qui ont arbitré la Coupe du Monde U17 en Inde. Mais là, les seniors... On a eu des Nelly Vienno, pour ceux qui connaissent l'histoire, on a eu des Corinne Lagrange. Donc, je suis contente, on a une élite, mais il faut quand même continuer à travailler sur cette base. Il faut savoir que quand je prends le dossier, on est à 860 arbitres, on a dépassé les 1000, on était à 1200. Et je me souviendrai toujours de cet événement. Avant la Coupe du Monde, donc 2 semaines avant le début de la Coupe du Monde, on a les arbitres qui s'entraînent à l'INSEP, les arbitres féminines. J'invite la première femme arbitre française. Elle a 84 ans, elle est en Martinique, on l'invite en métropole et elle rencontre la 1000e arbitre.
Génial.
Et autour de cet événement, j'ai invité les meilleurs espoirs de l'arbitrage français. C'était génial. Ça a été génial de retrouver cette histoire. Et il y a Colina qui est là, le directeur de l'arbitrage féminin. Il y a Kerry Zeit qui est la femme arbitre qui a fait le maximum de matchs possibles, Coupe du Monde, Jeux Olympiques possibles. Elle a fait 4 Jeux Olympiques, 4 Coupes du Monde. Tous ces gens réunis en France, on les rencontre. Ah, c'était super.
Okay.
Donc oui, je suis devenue une fan de l'arbitrage parce que l'arbitrage, au-delà de mon projet, je me suis rendu compte que l'arbitrage, il peut faire vraiment du bien à notre société.
Ouais.
Éduquer les jeunes à respecter, à être des managers. Aujourd'hui, on est des sportifs. Désolé, c'est long, mais aujourd'hui, on est des sportifs.
Non, vas-y, vas-y, j'adore.
Et on n'apprend pas à gérer la crise. On fait du sport. Bon, j'ai fait mon match, j'ai pas gagné. On débriefe entre nous. Mais être un arbitre, un très jeune âge, c'est ça, déjà prendre des responsabilités, c'est être un manager. J'ai 15 ans et je suis manager d'un match. 13 ans, je suis manager ou manageuse de match. Je sais que demain, ces jeunes-là, au niveau professionnel, ah, ils seront à l'aise. Ils seront à l'aise.
Et
puis ils auront beaucoup plus de respect envers l'institution. Voilà.
Ouais. Mais ouais, bien sûr, bien sûr. Et tu penses pas qu'il y a aussi un rôle même de la part aussi des coachs, tu vois, d'apprendre le respect de l'arbitre, tu vois. Typiquement, moi j'ai joué 5 ans au rugby. Et il y a un respect, tu vois, mais alors pourtant il y a de la testostérone, il y a du muscle, il y a de la bagarre, voilà, il y a tout ça. Et pourtant il y a un énorme respect de l'arbitre, tu vois. Et dans le football, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins, tu vois. Il y a eu quelques dérapages qu'on devait, enfin, et selon moi, c'est des dérapages qu'on verra jamais dans le rugby. Et moi je voulais du coup vu que t'en parles et que c'est un sujet que tu connais bien, comment est-ce qu'on peut mettre fin à ça, tu vois? Comment est-ce qu'on peut mettre fin typiquement à ce genre de à ce genre de dérapage, quoi?
Je pense au-delà du football.
C'est une question compliquée, hein, je suis désolé.
Non, c'est pas compliqué, c'est une question qu'on se pose tous les jours. Comment on fait pour avoir, parce que notre football et notre football amateur, bon, sur une organisation de 900 000 matchs à l'année,
ouais.
On recense quoi, 10 000 cas d'agression envers les arbitres. Il y a pas d'augmentation en termes d'agression, mais les agressions sont de plus en plus importantes. Ça doit nous faire tilter, ça doit nous mettre la puce à l'oreille en disant attention, les gens ont de plus en plus de manque de respect, ils sont de plus en plus agressifs envers nos arbitres. Ouais. Donc pour revenir à un équilibre serein sur nos matchs, qui est important, éduquer nos joueurs et joueuses. Il faut savoir que le football, on est peut-être un des seuls sports à ne pas obliger nos joueurs à avoir cette éducation de l'arbitrage. Bien sûr, on forme nos joueurs à faire arbitrage des jeunes par les jeunes, mais c'est pas systématique. Je pense que dans le cursus d'un joueur, il faut qu'ils aient le sifflet à la bouche. Il faut qu'il aille, il se confronte à ses propres coéquipiers. Gérer ça. Ensuite, les arbitres doivent avoir une place plus importante dans nos clubs. Moi, j'ai vu qu'en fait, le monde des arbitres est un monde à part dans le football. En termes, dans un club, moi, j'ai passé 21 ans de football sans connaître l'arbitre de mes clubs. Je ne savais même pas que le PSG avait des arbitres. Chaque club professionnel ou amateur a un arbitre. Mais les arbitres, on ne les voit jamais. Il faut que les arbitres soient au cœur de club, soient accueillis. Il faut que les arbitres fassent des formations, fassent de l'initiation à l'arbitrage à leurs propres joueurs, de l'éducation aux éducateurs, de l'éducation au président de club. Et en fait, il faut savoir qu'il y a des clubs tels que Laval et là, le club d'Orléans, ont des sections arbitrage. C'est-à-dire que si tu as une section arbitrage, tes arbitres vont arbitrer déjà tes propres matchs amicaux en interne. Mais aussi, tes arbitres vont pouvoir éduquer tes joueurs. Et en fait, on se rend compte, j'en parlais avec le président de Laval il y a quelques années, il y a 2-3 ans, il me disait que depuis qu'il avait sa section arbitrage, les joueurs prenaient moins de cartons. Donc, quand il y a moins de cartons, tu paies moins de frais. Tes joueurs sont mieux éduqués. Il faudrait en fait voir ce que l'arbitrage apporte au niveau financier, mais au niveau intellectuel aux joueurs. Est-ce que nos joueurs sont beaucoup plus intelligents? Et je suis sûr que si on prend le pari, les joueurs vont être beaucoup plus malins et moins de cartons, donc moins de sous à payer et puis de meilleurs résultats. Sachant qu'on sait que parfois les matchs de très haut niveau se jouent à l'absence de certains joueurs dû à des cartons. Donc il y a tout un enjeu avec l'arbitrage qui pourrait être intéressant de s'investir dans l'arbitrage. Mais aussi d'éduquer des joueurs, mais aussi de se dire, c'est un niveau, ça peut aider au niveau pro et tout ça.
Mais je voyais pas du tout ça sous cet angle. Mais là, tu viens de me faire un parallèle. Je lisais un article sur le management où typiquement c'était dans une entreprise où les employés se plaignaient du management. Et t'as parlé de management et de manager. Et ce qu'ils avaient fait pour résoudre le problème dans cette entreprise, c'était d'inverser les rôles, c'est-à-dire de demander aux gens des équipes de prendre le rôle de manager et de devoir faire ça. Et en fait, ça a tout de suite calmé les tensions, quoi. Quand tu vis la place de l'autre et que tu le fais à sa place, tu te rends compte à quel point ça peut être dur, à quel point à quel point ça a des enjeux et à quel point tu fais pas mieux toujours. Je vois que vous avez beaucoup réfléchi à la question et
se mettre à la place de l'autre. Comme quand tu me dis, est-ce que tu peux être légitime pour parler de racisme ou plutôt de féminisme? Simplement, si tu te mets simplement à la place d'une femme, c'est-à-dire si tu as tes réponses. Mal de réponses. Comment je le vivrais que quelqu'un me cite?
Juste faire l'effort.
Ou de me dire, mais non, c'est pas fait pour toi. Ça aide déjà. C'est une des solutions, en tout cas, pour déjà te dire, qu'est-ce que ça fait? Et tu peux te le noter. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup plus de respect. Et ça, c'est de l'empathie. Voilà. Se mettre à la place des autres, ça aide. Se mettre à la place d'un arbitre, ça aidera.
C'est clair. Et on devrait plus donner la parole aux arbitres, c'est clair. Mais tu sais quoi, on en reparle en antenne, mais si jamais t'as un nom d'une arbitre ou d'un arbitre très sympa qui pourrait parler d'arbitrage, ce serait avec grand plaisir sur ce podcast.
Très bien.
Et écoute, on arrive à la fin. Il y a trois questions que je pose à tout le monde, à tous les invités. La première, c'est de savoir comment est-ce que tu te vois dans 10 ans.
10 ans, veut dire que j'ai 46. Ouais, alors écoute, j'ai pas eu cette vision d'aussi loin, mais je veux simplement être quelqu'un d'heureuse.
Okay.
Être en bonne santé, si possible, être entourée de ma famille, avoir des enfants, un mari extraordinaire, bienveillant, être heureuse, ouais.
Okay.
Et puis continuer à voyager. Ouais. Et faire ce que j'aime, être au contact des gens et partager.
Ouais. Et, ok, génial, j'adore la réponse. Et la deuxième, c'est de savoir s'il y a une jeune fille, tu vois, qui a 15 ans, 16 ans, et qui vient te voir et qui te dit « Laura, j'adore qui tu es, j'ai envie de devenir comme toi, comment on fait ?» Qu'est-ce que tu lui réponds ?
Comment on fait ?
Tu m'inspires trop, j'ai envie de faire j'ai envie de faire la même carrière que toi.
Je lui dis non, mais je veux juste te donner le conseil, reste authentique, et apprends de tout le monde, et sois bienveillante.
Ok. Mais en tout cas, je trouve que c'est des valeurs et des messages que tu portes plutôt bien, donc trop chouette. Et la toute dernière, c'est de savoir est-ce qu'il y a une personne, ça peut être un athlète, une athlète, un arbitre, que tu me recommandes d'aller, avec qui tu me recommandes d'avoir un échange comme on a eu aujourd'hui. Pour un prochain épisode du podcast Extraterrien.
Alors moi j'ai pas d'athlète en particulier, j'en connais beaucoup hein. Oh.
Bah ça j'en
mais
doute pas.
Moi ce qui m'intéresserait surtout de savoir, de connaître. J'ai entendu parler d'une jeune femme qui est handicapée mentale. Qui a un handicap mental et qui fait du sport de haut niveau. Et moi j'aimerais qu'on lui donne la parole pour qu'elle donne de la force à beaucoup de gens.
OK.
Parce que on connaît pas l'handicap mental. Physique, heureusement qu'on commence à en parler, on pourrait faire beaucoup mieux, mais l'handicap mental, il est invisible pour certaines personnes. Mais on a un handicap, et parfois les gens ne comprennent pas ce que c'est. Donc moi, j'aimerais bien que tu puisses mettre en lumière cette femme. Je te donnerai le nom tout à l'heure, parce je l'ai pas tout de suite, mais je connais quelqu'un qui pourra me le faire passer.
D'accord, voilà. Écoutez...
L'handicap mental est... il est important d'en parler aussi.
D'accord. Donc un ou une arbitre et cette personne qui a un handicap mental.
Ouais, et qui fait du sport de haut niveau.
Eh ben, écoute, c'est avec grand plaisir. En plus, j'étais en train d'échanger il y a pas si longtemps avec la Fédération française de natation de sport adapté, et ils font un boulot remarquable. Et je sais que certains de leurs athlètes écoutent. En plus, nous écoutent aujourd'hui, donc ça fait double raison. Engagement, preuve sociale. Je suis obligé d'y aller maintenant.
Ouais, il faut leur donner la voix. Il y a des beaux parcours, il y a des histoires inspirantes.
Trop cool. Merci infiniment, Laura. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ?
D'être heureuse et en bonne santé.
Et bien, sois heureuse et en bonne santé.
Et que le Covid se termine, qu'on puisse retrouver une vie normale.
un an après, jour pour jour, on est revenu.
On fait le point.
Merci infiniment. J'ai passé un moment incroyable. C'est vraiment trop cool de pouvoir échanger avec toi. Et comme on dit chez moi, il y a que les montagnes qui se recroisent pas. Donc, qui vivra verra.
Tu auras verra d'ici dans 10 ans.
C'est avec plaisir. Salut.
Salut, merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.